rencontre spirituelle. Aujourd'hui, il sera question d'Aurélie Caouette. Aurélie, c'est un joli prénom. Aurélie, elle est morte en 1905. C'est une mascoutaine. Elle est née à Saint-Hyacinthe. Elle a grandi à Saint-Hyacinthe. Elle a vécu à Saint-Hyacinthe, où elle a fondé, au sud de Montréal, les Adoratrices du Précieux Sang, une congrégation de sœurs contemplatives. Et c'est une mystique elle-même, remarquable, étonnante même, dont la cause va être présentée à Rome pour la béatification et la canonisation. J'aimerais commencer avec un texte d'elle, un texte remarquable qui s'appelle Sitio. Si vous savez, c'est la parole en latin de Jésus sur la croix. J'ai soif, j'ai soif. On a cru qu'il avait soif, on lui a présenté une espèce de potion probablement pour calmer la douleur, il y avait du vinaigre dedans, dit-on. Et ce Sitio, j'ai soif, a été interprété d'une façon mystique depuis toujours. C'est la soif de Jésus-Christ, la soif de Dieu, la soif qu'il a de nous, de notre cœur, de notre amour. Et elle a donc écrit ce chant d'amour, Sitio, où le thème premier en importance, celui qui anime tout son texte, c'est l'amour. Le père Mercier de Saint-Benoît-du-Lac a écrit sur elle 5 volumes assez importants aux éditions Pauline, et il a publié aussi à la suite de ça un livre qui résume les 2 premiers tomes qui étaient consacrés à la vie d'Aurélie Caouette en religion. Elle s'appelait Mère Catherine Aurélie du Précieux Sang. Cette femme au charisme bouleversant, comme il l'appelle, dont Gérard Mercier, il a donc publié en un seul volume une édition abrégée de la vie. Et on peut lire des choses absolument admirables qu'il a écrites. Il écrit que le thème premier, donc en importance, celui qui anime tout, c'est l'amour. Jésus a manifesté son amour pour nous en versant son précieux sang. Le sang, comme je vous dis souvent, c'est l'âme dans la mentalité juive. Je ne cesse de vous rappeler l'anecdote que les témoins de Jéhovah, qui sont très fondamentalistes et très attachés au texte, la lettre, reconnaissent que dans l'Ancien Testament, il était défendu de toucher ou d'absorber du sang. Car le sang, les animaux, c'est l'âme. Et alors, dans notre religion, nous pourrions avoir cette vision précieuse par rapport au sang de Jésus. Son âme qui se répand. Il verse son âme, son précieux sang. Il a soif d'amour. Et le message de cette mère fondatrice des Sœurs du Précieux Sang, c'est avant tout une invitation pressante à apaiser la soif de Jésus, du Christ, du Sauveur, en répondant à l'amour. Comment? Par l'amour. Et c'est ce que font ces religieuses québécoises répandues à travers le Canada maintenant. C'est là le grand motif qui a poussé Mère Catherine Aurélie à fonder cette congrégation ou cet institut du Précieux Sang. Je vous rappelle que 2 ans avant cette fondation, la fondation a eu lieu un 14 septembre 1861. Alors 2 ans avant la fondation, alors que son directeur, très important qu'il a dirigé toute sa vie, un prêtre de Saint-Hyacinthe, lui demandait « Quelle sera la caractéristique de l'institut qui doit être fondé ?» Et elle a répondu d'un seul mot qui a jailli directement son cœur très spontanément, car c'était vraiment une mystique engagée, « Amour ». C'est le seul mot qu'elle a prononcé, « Amour ». C'est pourquoi, dans l'introduction aux Constitutions, le fameux Monseigneur Joseph Larocque, l'évêque de Saint-Hyacinthe, qui l'a épaulé et qui est mort dans un couvent des Sœurs du Précieux Sang, se faisant l'écho de la pensée de cette fondatrice, a écrit « Or, le petit institut qui est né, qui vit sous le glorieux nom du Précieux Sang, est appelé à retracer et à refléter autant que possible l'image de la divine charité, avec laquelle ce sang divin a été répandu. » charité dont ce saint a été et sera toujours le signe. Vous avez bien compris que le saint est le signe de la charité, de l'amour du Christ pour nous tous. Il ajoute l'expression aussi de cette charité, la mesure de cette charité, le gage de cette charité. Et quand cet évêque qui a aidé à l'institution, à la fondation de cette congrégation, quand il fera parvenir aux sœurs le livre des constitutions, bien, Mgr Larocque va leur rappeler que leur vocation est avant tout un appel à l'amour. Il dit, c'est très beau ce qu'il dit, vous dites, c'est vers 1860, il y a 140 ans pour ainsi dire, le grand but de la vie chrétienne, et encore plus de la vie religieuse. Ça s'adresse à nous, le grand but de la vie chrétienne. Bon, et encore plus de la vie religieuse, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Vous êtes des filles d'amour. Vous êtes ici parce que vous avez voulu vivre d'amour. Vous aviez besoin d'aimer Dieu et d'aimer les âmes. Don Mercier, que j'ai bien connu à Saint-Benoît-du-Lac, quel moine, si par hasard il écoute cette émission, je le salue, je lui dis que je l'aime beaucoup. Si la religieuse adoratrice du précieux sang de Jésus se consacre comme une victime réparatrice, ou si vous voulez, consolatrice, c'est uniquement par amour. On doit toujours chercher à consoler le cœur de Jésus qui est blessé. Oh d'accord, il est ressuscité, il est en pleine gloire. Il y a des livres du Père Gallo et d'autres qui demandent la question, Dieu souffre-t-il? Mais oui, Dieu souffre. Mais ça ne l'empêche pas d'être infiniment ce qu'il est. Il souffre du manque d'amour de notre part. Alors, si elle se consacre, la sœur du précieux sang, l'adoratrice du précieux sang, comme victime consolatrice ou réparatrice, c'est uniquement par amour. Son renoncement, ses mortifications, ses prières sont autant de manifestations de son amour. Je dirais que même ses récréations, la musique qu'elle fait, les chants qu'elle font, la joie qu'elles ont d'être ensemble, ce sont des manifestations de l'amour de Dieu. Jésus l'a dit à Mère Catherine Aurélie du Précieux Saint. C'est dans une lettre qu'elle a écrite à son directeur, l'abbé Raymond, en date du 27 janvier 1864. Elle lui dit cette phrase étonnante que Jésus lui a dite et qui est très belle. « J'ai besoin d'amour. Il me faut beaucoup d'amour. Vois comme mon cœur est brûlant d'amour. Il aime et veut être aimé. » Et son devoir comme fondatrice, mais ce sera d'aimer, mais aussi d'embraser d'amour le cœur de ses filles. Comme le lui rappelle l'abbé Raymond, d'ailleurs, en lui écrivant. Et c'est très beau ce que ce prêtre écrit. Écoutez bien ce que ce prêtre écrit à cette époque. Particulier de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce que Jésus vous demande? Ce qu'il a donné. De l'amour. Donnez-lui le vôtre. Aimez-le en compatissant ses souffrances. Aimez-le en pensant à sa grandeur pour vous en réjouir. Aimez-le en vous plaisant à croire à son extrême bonté envers vous, en vous regardant comme ardemment aimé de lui malgré vos misères. Aimez-le en lui répétant de bouche et de cœur que vous l'aimez. Aimez-le en travaillant à la grande, sainte et délicieuse œuvre qu'il vous a imposée, celle de le faire aimer de cœur par des vierges pures et humbles. Faites-le aimer d'elle par l'amour que vous inspirerez et qui de votre âme passera dans la leur. Faites-le aimer par des paroles brûlantes, quelque brèves qu'elles soient, que vous leur adresserez, soit en commun, soit en particulier. Faites-le aimer en maintenant autant que possible le recueillement, sans lequel ne peut avoir lieu ce qui enflamme l'amour, l'oraison. Il faudrait que je vous fasse bien une émission solide sur l'oraison un jour avec des, évidemment, des, des textes d'auteurs compétents. Moi, je n'ai aucune compétence dans ces domaines-là. Je m'inspire de textes constamment. Et je ne connais pas grand-chose, finalement. Et l'abbé Raymond ajoute, « Faites produire souvent des actes d'amour. » Faites produire souvent des actes d'amour. Ce prêtre est merveilleux, ce particulier. Ne craignez pas de paraître extravagante. Et très bien, ça. Ne craignez pas de paraître extravagante. Ce n'est pas pour vous seul que Jésus vous parle. Ce qu'il vous donne d'ardeur, il veut que vous le transmettiez aux autres. Allez souvent vous embraser auprès du tabernacle. Et ensuite, répandez le feu. Vous savez ce que c'est qu'un tabernacle? C'est là où on conserve de saintes hosties qui sont la présence réelle de Jésus. Je le dis parce qu'il y a des incroyants, des musulmans qui m'écoutent. Et il termine en disant, ce sera par les flammes de l'amour et pas autrement que vous, que seront consumés les défauts qui peuvent apparaître encore dans vos filles. Encore une fois, brûlez, faites brûler, c'est votre mission. Et cette mission, bien mère Catherine Aurélie du Précieux Sang l'a bien comprise, et son cœur brûlant d'amour s'est efforcé, comme le dit Don Mercier, de faire brûler du même amour le cœur de ses filles dans ce message d'amour qu'est son sitio, j'ai soif. Alors voilà pourquoi le thème premier de cette invitation qu'elle leur adresse, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et voilà pourquoi aussi ce mot « amour » revient 40 fois sous différentes formes dans ces quelques pages du sitio. Il en est l'âme et le principe vivificateur, comme dit Don Mercier. Car l'amour comprend tout. L'amour comprend tout. Explique tout. Anime et vivifie toute la vie de la religieuse adoratrice du Précieux Sang. Je tenais à situer la chose dès le début. Avant de vous parler d'Aurélie Kawat elle-même, en religion, comme vous savez maintenant, mère Catherine Aurélie du Précieux Sang, qui est née le 11 juillet 1833, à Saint-Hyacinthe, que vous connaissez sur les bords de la rivière Yamaska, au sud de Montréal, au Québec. Ses parents sont des chrétiens convaincus, qui avaient une foi robuste, des mœurs très pures, comme nos ancêtres en général. Aurélie est la huitième de 9 enfants des grandes familles. Sa mère, enceinte, pratiquait déjà l'exercice répété du chemin de la croix, puis elle méditait souvent la passion du Sauveur alors qu'elle portait Aurélie. Et à coup sûr, on peut penser qu'Aurélie a dû s'en ressentir, hein, pourquoi pas. Ce que fait la mère, l'enfant s'en ressent. Hein. Il entend même la voix du Père, si la voix est assez forte. Hein. Alors, elle va naître avec le sens du divin. De ce divin-là, de la passion de Jésus. Il y a 4 ans, d'ailleurs, son père, un forgeron, la surprend dans son atelier. Imaginez, elle s'exerce à porter une lourde croix de bois sur ses épaules et elle dit que c'est pour suivre Jésus chargé de sa croix. Et dès sa première communion, elle garde un désir surprenant de Jésus présent dans le très saint sacrement. Saint-Hyacinthe, au pensionnat de la Congrégation Notre-Dame, se distingue de toute manière par son intelligence, elle est vive, elle est profonde. Elle a des goûts très sérieux. Puis son application au travail, son tact, sa délicatesse, sa gaieté sont remarquables. Et toutes ses compagnes de classe l'aiment beaucoup. Et elle l'élise président des enfants de Marie. Puis elle devient vraiment le centre d'attraction morale. Elle est un modèle, hein, pour une bonne partie des élèves. Elle a aussi des petits défauts, en particulier une tendance à s'obstiner. Mais elle n'est pas opiniâtre, tout de même, dans ses idées. Et elle cède quand on lui montre son erreur, mais elle combat ce défaut toute sa vie. Et c'est à partir de cet excès d'opiniâtreté qu'on peut dire que ça va lui assurer sa persévérance, sa sainteté, à vouloir ce qu'elle va vouloir pour la gloire de Dieu. Elle dit toujours « Je veux la volonté de Dieu ». C'est ce qu'on appelle la fidélité à un grand idéal. Alors, la piété de la jeune Aurélie Kawat va s'augmenter tout au cours de son adolescence et de sa jeunesse. Elle devient toujours plus intense, sa piété. Et même, ce qui est très important, plus silencieuse. Elle devient contemplative. Elle prie beaucoup. Elle médite vraiment la passion de Jésus-Christ. Si elle avait connu le suaire de Turin, elle l'aurait médité. elle aime le Seigneur. Elle s'adonne même à l'oraison très fidèlement. Et là, elle subit parfois l'emprise très douce de Jésus crucifié. Déjà, les phénomènes spirituels que nous ne connaissons pas, enfin moi je ne connais rien là-dedans, elle éprouve ces choses extraordinaires et merveilleuses qu'on lit dans la vie des saints. Et Jésus parle souvent à son âme. Elle est saisie de temps en temps de profonds recueillements qui l'absorbent tout en yeux. Elle est née contemplative et on peut dire sans exagérer avec Don Vandeur, bénédictin de Maritsou en Belgique, qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur elle, « Sitio, j'ai soif » ou « Testament spirituel de la mère Catherine Aurélie Caouette », publié il y a très longtemps, au milieu des années 50, au prieuré des moniales bénédictines du précieux sang de Mont-Laurier, hein, car il y a des bénédictines du précieux sang qui sont héritières d'Aurélie Caouette à Mont-Laurier. Et elle est donc née contemplative, et l'une, dit-il, des plus grandes qui soient. La contemplation, c'est l'école des âmes généreuses et héroïques, dit-il, et c'est pourquoi la grande et véritable contemplation est rare, relativement rare. Et ce sera sa grande voix à cette Québécoise, et celle où elle en va en conduire tant d'autres, au Québec et ailleurs. Et Aurélie, maintenant, elle a 16 ans, à la distribution des prix de 1849 à Saint-Hyacinthe, chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Elle joue dans un drame qui a pour titre « Le martyr de Sainte-Catherine ». Il s'agit de Sainte-Catherine d'Alexandrie. C'est composé par M. l'abbé Raymond, le supérieur du séminaire, et directeur du couvent Notre-Dame, et son directeur de conscience, et pour tout le restant de sa vie. Et elle doit créer donc ce rôle principal, celui de Sainte-Catherine d'Alexandrie, puis elle y met toute son âme. Elle se sent comme devenue la martyre. Or, en pleine séance, une grande émotion s'empare d'elle un jour. Elle incarne l'héroïne, c'est pour la 100e fois qu'elle profère l'exclamation qui résume tout ce drame et lui donne une âme, et Aurélie s'arrête un instant ce jour-là, comme interdite. Elle se reprend aussitôt et avec une ferveur absolument étonnante au nom de la sainte Catherine, elle s'écrie, écoutez ça, c'est curieux, c'est du langage mystique. Je sens en moi toute l'énergie du sang divin. C'est un sang généreux qui n'aspire qu'à se répandre. C'est l'âme du Christ qui est l'énergie qu'elle sent. Le sang, c'est l'âme. Ça rappelle la parole de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et dès ce moment, on peut dire qu'Aurélie est devenue la victime et l'apôtre du précieux sang. Elle se sent comme aspergée de ce sang, de la tête aux pieds. N'ayez pas peur de ça, c'est qu'elle est, elle est comme enveloppée par l'âme du Christ. Hein. Et son âme en est pénétrée à déborder. C'est fait. Désormais, elle ne va plus respirer, vivre, travailler ou mourir. Chaque jour un peu mieux que pour ce saint de l'amour crucifié. C'est un langage difficile, je l'avoue, mais je vais tenter de vous l'expliquer dans la mesure de mes pauvres moyens. À tout prix, cette jeune fille veut devenir une sainte, une vraie sainte, une vraie, vraie sainte. Et le même abbé Raymond, là, c'est un homme de Dieu, très intérieur, c'est un prêtre séculier expérimenté dans la conduite des âmes. Il demeure le directeur de conscience d'Aurélie, puis à sa sortie du couvent, ses études, là, des sœurs, chez les sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Saint-Hyacinthe. Il va le rester, d'ailleurs, 40 ans durant, son directeur, et avec un dévouement et une prudence consommée, il dirige et soutient cette âme, l'âme d'Aurélie, de qui Dieu attend, c'est clair, de si grandes choses. Il lui accorde, d'ailleurs, des grâces extraordinaires de contemplation et d'union, et ce sont des grâces qu'Aurélie accompagne d'une mortification qu'on a pu dire à certains moments effroyable. Ça rappelle parfois, dit-on, celle des pères du désert au IVe siècle, et même de Sainte Thérèse d'Avila ou de Sainte Catherine de Sienne. Sa vie n'est plus qu'un appel passionné vers la souffrance. Ce qui l'attire, c'est Jésus et Jésus crucifié, comme dit Saint Paul au début de l'Église. Elle ne veut plus d'autre science. Elle ne veut plus connaître autre chose, on dirait. Elle est tout orienté vers ceci. Le sang qui coule des plaies bénies de Jésus occupe désormais, et jusqu'à sa mort, son esprit, son cœur, son amour. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Elle écrit dans son journal intime « Ou mourir ou souffrir, et vivre dans le mépris et l'oubli ». On dirait c'est du masochisme, mais pas du tout. Elle veut laisser toute la place à Jésus. Plus elle diminue, plus Jésus grandit. Elle dit Jésus, elle écrit ça, Jésus, que voulez-vous, ma vie, mon divin ami, avec joie je la sacrifie, ma vie, je la donne, je l'immole pour sauver des âmes. C'est ce grand courant à l'intérieur du corps mystique qui fait que l'amour d'une religieuse contemplative ou d'un moine contemplatif se répand dans le corps mystique, qui est l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Et le pape a rappelé, d'ailleurs, en fin de semaine, l'importance des bénédictines, des bénédictins, des moines. Catherine Aurélie écrit, « Quand on considère l'époux divin abandonné, méprisé, souffrant et mourant, comme on demanderait à grand cri d'être soi-même méprisé, foulé aux pieds avec lui. La souffrance, je l'appelle de tous mes vœux. Je vous en supplie, Dieu du calvaire et de l'Eucharistie, mon bel époux. Donnez-moi la grâce de souffrir pour vous. » Il y a là une tendance étrange que l'on retrouve au 19e siècle très fortement, que l'on retrouve encore aujourd'hui, et qui est très mystérieuse dans le christianisme. Elle dit, « C'est toute ma consolation dans mon exil. Ôtez-moi tout ce que vous voudrez, mais laissez-moi la croix. » En somme, elle dit à Jésus, « Je vous aime, je vais vous accompagner jusqu'au bout. » C'est ça que ça veut dire, finalement. Et Jésus lui répond magnifiquement, hein. Elle le bénit de pouvoir achever en elle, comme on dit, la passion de celui qu'elle aime. Elle devient comme un crucifix vivant, et nous allons voir comment, et c'est très délicat à expliquer. Sans rien omettre des nombreux travaux, comme les tâches ordinaires de sa famille, chez elle. Elle est laïque, toujours. Elle prolonge dans la nuit ses prières. Elle n'a pas 20 ans et déjà la souffrance s'empare d'elle, définitivement. Et cette souffrance, comme une longue traînée de sang, commence à marquer chacune des étapes de sa vie. Et elle vient d'être guérie par Sainte Catherine de Sienne, qu'elle aime beaucoup. Une laïque, hein, une Catherine de Sienne, dont je vous ai déjà parlé. Elle est guérie d'une maladie qui la clouait depuis de longs mois sur un lit d'hôpital. Le monde en général lui fait horreur, que je la comprends. Hein. C'est l'ennui. De l'ennui. On pourrait dire qu'elle le craint même, le monde. Son directeur lui conseille d'ignorer le monde de plus en plus, ce monde qu'elle a frôlé à peine. Et de plus en plus, bien, elle refuse les invitations. Elle se dépouille elle-même de ses belles robes, elle laisse là les belles toilettes, elle revêt une robe noire, très simple, une étoffe très très simple, très ordinaire. Une robe qui va de la tête jusqu'aux pieds. Bah, c'était à l'époque, c'était normal. Toutes les femmes s'habillaient jusqu'aux talons, quoi. Elle se recouvre par-dessus ça d'un long manteau noir, et elle va comme ça à l'église, un peu original, hein, pour participer à la messe, communier, faire des visites au Saint-Sacrement, et puis, c'est assez étrange, la simple pensée du péché se voit sur son visage. On voit l'horreur qu'elle en éprouve. Et si elle regarde un crucifix, ses traits se crispent de douleur aussi. Elle est très sensible. Alors, elle jeûne. Elle jeûne encore plus. Et ses nuits de prière augmentent. Son père spirituel raconte tout ça. Je t'aime pas y croire, ça te semble plutôt exagéré. Puis, plusieurs années avant la fondation de la congrégation des Sœurs du Précieux Sang, ce qu'elle va faire à 28 ans, ses sens manifestent de mystérieux et étranges phénomènes, et il n'est pas question de juger, hein, l'Église s'en chargera son heure, mais c'est son propre évêque, Mgr Larocque, dans son rapport intitulé « Mes mémoires d'outre-tombe » et ouvert après sa mort, c'est son directeur et d'autres et plusieurs responsables de l'Église de Saint-Hyacinthe qui témoignent avec autant d'admiration que de sincérité. Le crucifix qu'elle porte à la ceinture, mettons, s'échauffe dans sa main, et il brûle la main de ceux qui le touchent. Puis un parfum qui s'échappe de sa personne, surtout après ses communions. Vous direz que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pourtant authentique, c'est authentifié par l'évêque et son directeur et les prêtres de l'époque. À 25 ans, donc quelques années avant la fondation de cette communauté, son évêque, je vous raconte ces faits phénoménaux, pas pour vous attirer vers les phénomènes, ça n'a aucun intérêt des phénomènes en soi. Les phénomènes en religion, c'est simplement pour attirer notre attention sur des vérités de foi et sur l'existence de Dieu qui entoure d'un amour tout particulier certaines personnes, comme pour nous les montrer comme des témoins de son amour. Et nous devons non pas les jalouser, mais rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Donc à 25 ans, son évêque, Mgr Larocque, note avoir vu souvent le sang suinter plus ou moins abondamment du front d'Aurélie et de sa tête quand elle se présente à la Sainte Table. Cela va se répéter longtemps encore après la fondation. Durant 20 ans, avant et après la fondation, ce 14 septembre 1861, tant de prêtres l'ont constaté, sa langue, c'est un peu étrange, se couvre abondamment d'un sang liquide et vermeil dans l'acte même de la communion. Vous direz que ça, c'est un peu répugnant. Ce n'est pas répugnant. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans l'âme de Jésus qui est son sang. Il arrive souvent qu'un jaillissement sensible de sang semble sortir de son cœur. Il se fait, mais apparaît comme à travers son côté, puis ça mouille ses vêtements. Un jour, il sort à travers la collerette de sa robe et Mgr Larocque, l'évêque, en recueille 3 gouttes. Tout ça se passe à Saint-Hyacinthe. Il y a un peu plus de 100 ans. Monsieur l'abbé Raymond, son directeur, affirme que le sang coule tous les vendredis de sa tête, de ses mains, de ses pieds, et presque tous les jours de son cœur. Elle est donc stigmatisée. Le feu de sa poitrine embrase les objets. On voit ça chez une autre dont je vous ai parlé. C'est curieux. Elle souffre aussi les douleurs du couronnement d'épines, raconte-t-on. Son évêque a vu plus de 40 fois, au moment de la communion, ses vêtements de couleur noire se transformer en une robe d'une éclatante blancheur, et 2 fois seulement en un rouge brillant. Vous direz que cet évêque avait des hallucinations. Bon, si vous voulez, moi je vous laisse libre. Mais le fait va cesser plus tard à l'adoption du costume rouge et blanc que vont porter les religieuses du précieux sang. Bon, je sais qu'on ne me croira pas sur certains détails. Ce sont des détails rapportés par Eugène Vandeur, moine bénédictin de la fameuse abbaye de Maretsous en Belgique, qui a bien étudié la question. Et c'est rapporté aussi dans les ouvrages de Don Gérard Mercier de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui est toujours vivant, très âgé maintenant, une belle tête blanche, tout souriant. Moi, je rapporte les faits concrets, véridiques, qui sont survenus, il y a plus de 100 ans, environ, à Saint-Hyacinthe, c'est tout, je vous les rapporte. Plus tard, le futur et premier évêque de Nicolette, Mgr Gravel, encore simple vicaire, alors à Saint-Hyacinthe, et qui ne croyait, pour l'avoir vu, qu'au fait du sang sur la langue. Bon, il refuse absolument de croire à tant d'autres faits connus de tous. Alors, il rencontre Mgr Larocque. Il va lui succéder plus tard. Comme il parle de ces faits comme des histoires en l'air, des choses absurdes et ridicules, et qui sont... tout ce que ça fait, ça provoque la risée du public, ça provoque aussi la défiance puis le mépris envers la fondatrice. L'évêque se redresse de son fauteuil. Puis avec un accent solennel et inoubliable, il dit à ce Mgr Gravel, il ne va pas de mémoire, il dit, eh bien, moi, devant Dieu, qui m'entend et avec ma parole d'évêque, moi je vous jure que telle et telle chose que vous ne croyez pas et ne voulez pas croire sont vraies et prouvées. Je les ai vues de mes yeux, non pas une fois, mais 100 fois. Alors, après plus de 40 ans de fondation, Mgr Gravel redira cet entretien aux religieuses de Nicolette, en ajoutant, les sœurs du précieux Saint Nicolette, « Oh, je vous assure que je suis resté bouche bée, bouche close. Je n'osais plus bouger. » Et Mgr Gravel y croyait désormais, et il y voit la consécration anticipée de l'œuvre accomplie, la congrégation des sœurs adoratrices du précieux Saint. Aurélie Cahouette, encore jeune fille, dans sa famille, s'unit avec amour, toujours à la passion du Christ. Jésus forge en elle ce qu'on pourrait appeler d'une façon mystique le calice vivant, qui va recevoir dès lors le sang précieux qu'elle va bientôt glorifier. Nous sommes nous-mêmes des calices vivants, des tabernacles vivants. Nous portons Dieu. Oh, que je souffre, écrit-elle un jour. J'ai faim, j'ai soif. Le sang de Jésus, mon époux bien-aimé, occupe sans cesse mon esprit et mon cœur. Et la soif de cet amour de Jésus. Parce que le sang, c'est l'âme, ne l'oubliez pas, c'est l'amour. Et ce n'est pas tout. À 21 ans, elle devient la première tertiaire dominicaine de la pénitence au Canada le 30 août 1854 en la fête de Sainte-Rose de Lima. Et là, elle reçoit le nom de Sainte-Catherine de Sienne. Je vous ai parlé de Sainte-Catherine de Sienne le 29 avril 96 et puis en 98 aussi la même date. Ce sont les numéros 260 et 649 si vous voulez commander les cassettes à Marc-Alexandre. Catherine de Sienne, c'était une grande amante du précieux sang. Et désormais, Aurélie ne signe plus que Catherine Aurélie, en mémoire de Catherine de Sienne. Elle a des apparitions de la Très Sainte Vierge, vous direz, bien, mon Dieu, pas ça aussi. Oui, elle a des apparitions de la Très Sainte Vierge, de Saint-Dominique, elle est tertiaire dominicaine, de Saint-Thomas d'Aquin, le grand dominicain, qui l'a guéri d'une maladie. Le Seigneur, Jésus, se montre à elle plus d'une fois. Elle repose même la tête sur son divin cœur. Et elle reçoit en signe d'union ineffable, chose curieuse, et on voit ça dans la vie de certaines saintes, un anneau nuptial. J'hésite devant tous ces phénomènes, moi qui n'ai jamais prouvé quoi que ce soit de ces merveilles. Je ne connais rien de tout ça. Mais je continue. Pour obéir à l'impulsion de la grâce, pour témoigner à Dieu un amour plus ardent et plus pur, puis pour s'immoler par amour, enfin, et se lier plus parfaitement à son époux divin, elle fait vœu d'obéissance à son directeur. Le 15 août, à l'Assomption de Marie, en 1855, elle se dépouille donc de toute volonté pour la soumettre en toute chose à celui en qui elle ne voit que Jésus-Christ, son maître. Elle va obéir à son directeur totalement. Il n'y a plus de si, plus de mais. Non. Elle est à ses ordres, des ordres faciles et difficiles, même si ses avis et simples conseils, elle y obéit. Elle est prompte, elle est ponctuelle, et elle fait ça pendant 40 ans. Elle soumet à son directeur toute son âme, ses pensées, ses désirs, ses projets, surtout ses grâces, qu'elle place sous son contrôle le plus sévère. C'est ici, dit Don Vendeur, le moine de Maretsu, bénédictin, la pierre de touche de la véritable sainteté. Une obéissance qui sera héroïque, souvent, n'est pas possible sans une humilité très profonde, autant que très sincère, dans un suprême mépris de soi-même. Quand on sait que c'est Dieu qui nous a fait, qui nous a donné tous les dons, n'importe quoi qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné. Le corps, les yeux, le cerveau, c'est des cadeaux de Dieu. Qui sommes-nous? Des poussières. Ils sont chargés d'aimer et de répondre à l'amour de Dieu pour être heureux. C'est tout. Et ce sont les dons extraordinaires dont Dieu la comble, des charismes de tout genre. Mais tout ça n'est évidemment pas nécessaire à la sainteté. Hein? Tant de saints et de saintes n'ont jamais connu ça. Ces dons-là sont d'ordinaire plus utiles aux autres qu'à ceux et celles qui en sont favorisés. Et s'ils sont authentiques, faut bien faire attention. Ça peut être des phénomènes de nervosité puis de maladie mentale. S'ils sont authentiques, les phénomènes, ils préparent prédisent et soutiennent la mission toute particulière de telle ou telle âme, ici-bas, sur cette terre. Et ces dons viennent-ils vraiment de Dieu chez Catherine Aurélie? L'Église seule pourra le dire un jour, et à s'en tenir aux principes évangéliques qui dénotent une œuvre divine chez quelqu'un, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, c'est dans Matthieu, chapitre 7. Eh bien, on peut sans témérité dire avec Don Vendeur, on peut dire, c'est vrai, on peut les croire ici comme étant surnaturel chez Catherine Aurélie. Et en effet, Dieu prépare une œuvre grandiose. Ce surnaturel va éclater à l'excès. Il faut pour la fonder une âme qui a expérimenté toute la vocation d'une religieuse du précieux sang. Et cela ne veut pas dire que chacune des filles de la mère Catherine Aurélie va hériter de ses dons, c'est le secret de Dieu, ça. Alors, l'histoire de la vocation de Catherine Aurélie, ou si l'on veut, les manifestations divines par lesquelles Dieu la conduit, durent pas moins du 11 ans de sa vie, même davantage. C'est l'un de ses plus grands tourments, d'ailleurs. Souvent, ces gens-là n'aiment pas ça, ces phénomènes-là. Ça les gêne énormément. Oh, certainement, elle ne veut qu'être religieuse. Mais où et pourquoi faire? Et son directeur, M. l'abbé Raymond, est à ce sujet aussi perplexe. Il existe au Canada plusieurs congrégations qui sont réputées. Et petit à petit, elle va réfléchir, elle va s'entretenir. Et puis, en 1860, Mademoiselle Cahouette, Aurélie Cahouette, a 27 ans, et un jour, et pour en finir avec ses tergiversations, elle est allée voir Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, l'archevêque de Montréal, qui est vraiment inspiré de Dieu, et qui lui dit, « Mon enfant, si j'étais l'évêque de Saint-Hyacinthe, je vous dirais, allez-vous-en dans une petite chaumière bien solitaire, et fondez une communauté d'adoratrices du précieux sang, fille de Marie Immaculée. C'est le coup de foudre. » Alors Monseigneur Prince, son nouvel évêque, l'abbé Raymond, son directeur, et d'autres sont ravis de cette solution. On serait si heureux au Québec de voir fonder un institut purement contemplatif. Ça n'existe pas encore. Et cette fondation encouragerait et glorifierait deux grandes dévotions, alors à l'heure du jour, celle du précieux sang de Jésus-Christ et à l'Immaculée Conception. Les dévotions doivent retremper, régénérer les âmes qui vont combattre les deux grands malheurs de cette époque, à savoir l'oubli de Dieu et la décadence des mœurs, puis rien de nouveau sous le soleil, c'est même pire aujourd'hui. Or, de l'avis de tous, Catherine Aurélie paraît avoir été suscitée de Dieu pour fonder cette congrégation. Quoi de plus chrétien, de plus catholique et de plus substantiel que la dévotion à l'Eucharistie au précieux sang de Jésus-Christ? C'est pas une dévotion parmi tant d'autres, c'est la dévotion par excellence, et qui, pour tant de raisons, vivifie toutes les autres, hein? Le précieux sang, est-ce que c'est pas la preuve admirable de l'amour infini de Dieu pour nous? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et de répandre son sang, son âme, son amour. Je vous ai fait des tas d'émissions sur l'Eucharistie. Je vous donne les numéros. Ceux qui enregistrent pourront les retenir. Au besoin, demandez les cassettes à Marc-Alexandre. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Numéro 243, numéro 289, numéro 433, numéro 635... Il en vient deux bientôt, 793 le 17 février 99 et 824 le 3 avril de l'an prochain. Alors, c'est la raison essentielle du sacrifice du calvaire. Se renouvelle au Saint-Sacrifice de la Croix. C'est le sang de toute notre religion. C'est l'amour. C'est l'offrande à Dieu notre Père dans l'amour du Christ, dans l'Esprit Saint, de tout notre être, de toutes nos vies. C'est là le secret de la vie chrétienne, de la vie catholique. Alors, la fondation de cette œuvre extraordinaire des sœurs adoratrices du précieux sang va commencer dans la maison même des Cahouettes, là où est morte dans une étrange vision de sang sa sainte mère, sa mère, la mère de Catherine Aurélie. C'est le 14 septembre, comme je vous ai dit au début de l'émission, 1861, à la fête si bien choisie de ce qu'on appelait autrefois l'exaltation de la Sainte Croix, qui est la fête de la Croix glorieuse aujourd'hui. C'est dès les 6 heures du matin que Catherine Aurélie et ses trois compagnes, des intimes préparées par elle, se réunissent dans la maison de M. Kawat, qui la leur cède pour 2 ans. Cette maison a été transformée au mieux pour les besoins d'une communauté religieuse, et la cérémonie de cette installation reste inoubliable. Après les formalités canoniques d'usage, là, Catherine Aurélie Kawat et ses compagnes, ou ses filles, si vous voulez, se jettent aux pieds de leur évêque, Mgr Larocque, et lui demandent de consumer leur jour pour la plus grande gloire du très précieux sang et l'honneur de Marie Immaculée. Après la Sainte Messe, car cette fondation devait prendre là, aux sources du sang du Sauveur, son commencement, Mgr l'évêque remet aux sœurs le premier règlement rédigé par lui, de la communauté. Alors, c'est la congrégation des religieuses du précieux sang qui est fondée. Dès ses débuts, Dieu lui ménage des collaborateurs de premier ordre. Il y a Mgr Larocque, son grand vicaire, M. Raymond. Le premier devient le principal confident de celle qui s'appelle dès aujourd'hui Sœur Catherine Aurélie du précieux sang. En 1866, Mgr Larocque, à cause de ses infirmités, donne sa démission, puis vient s'installer bientôt au nouveau monastère qui est appelé le Blanc Monastère, où il va séjourner jusqu'à sa mort en 1887, donc pendant 20 ans. C'est providentiel, il devient l'âme avec la fondatrice de la congrégation, et c'est cet évêque qui va en rédiger les règles, les constitutions. Et les évêques se succéderont sur le siège de Saint-Hyacinthe. Ils se montreront tous, en particulier le bienheureux Mgr Moreau, Louis-Zéphirin Moreau, dont je vous ai déjà parlé, Mgr Decelles aussi, vous montrer les promoteurs, les protecteurs admirables de la congrégation du précieux sang. Ils vont bénir et encourageront les fondations nombreuses. Des évêques d'autres diocèses, évidemment, vont appeler de leurs vœux, comme on dit, les religieuses du précieux sang, s'installer chez eux. Ça va multiplier, et l'œuvre va se répandre. Et ainsi, à la mort de la fondatrice en 1905, il y aura déjà 11 monastères, imaginez. 11 monastères. Dans les années 50, il y en avait plus de 30. Quelques-uns ont été fermés maintenant. Le précieux sang a suscité de nombreuses vocations, des vocations de femmes, chez qui la fidélité, la constance et la générosité constituent un acte d'amour parfait, toujours plus pur, toujours plus riche et toujours plus fécond. Allez les voir. Allez au monastère de Chambly, 1410 rue Salaberry à Chambly, pour y rencontrer sœur Simone Gervais, une sœur lumineuse, pleine d'enthousiasme. Oh, je devrais peut-être pas mentionner son nom, ça va la gêner. Mais tant pis, c'est fait, je m'excuse. À la base de cette congrégation, il y a donc une âme de sainte, de fondatrice et de mère, qui va partout, son cœur d'apôtre l'entraîne. Elle est nourrie, comme Catherine de Sienne, comme Thérèse d'Avila, nourrie de la présence de Jésus, de son sang. Elle ne s'arrête que là où Dieu lui ordonne de dresser un autel de plus, d'où s'élèvera vers le ciel, on peut dire, le sang, l'âme de Jésus-Christ, qui enveloppe toutes les religieuses dans leur offrande amoureuse au Père. Et elle écrit son texte Sitio, dont je vous ai parlé au début de l'émission. Et quand je voulais vous donner quelques détails sur sa mort. Vous savez que depuis l'âge de 4 ans, elle était initiée au mystère de la Passion. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce cœur qui a tant souffert, tant il a aimé, n'en peut plus à la fin de ses jours. Comme c'est le cas pour Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila. Son cœur meurt d'amour. Son heure à elle, l'heure de passer de ce monde à Dieu, est arrivée. Elle est en pleine connaissance, dans une sérénité d'âme. Les sœurs autour d'elle la trouvent sereine, vraiment, jusqu'au bout, dans un abandon vraiment héroïque, hein, au bon vouloir de Dieu. C'est toujours la volonté de Dieu. Et l'aumônier lui demande à un moment donné, « Ma mère, désirez-vous le ciel ?» Et elle dit, « Oui, oui. » Et elle tient dans ses mains le crucifix que son bras vient de ramener sur sa poitrine. Elle le presse sur son cœur épuisé, puis elle exhale son dernier soupir. C'est le 6 juillet 1905, durant l'octave du précieux sang. Mère Catherine Aurélie avait presque 72 ans. Oh, chose curieuse, elle ne s'envole pas seule, parce que dans la même nuit du 6 au 7 juillet, donc 1905, tout près d'elle, c'est son propre évêque, Monseigneur de Selles, qui expire. Il était l'admirateur de ses vertus, il était son père et son conseiller fidèle. Une coïncidence mystérieuse, on pourrait penser qu'il l'a conduite au ciel. Quel plus beau jour aurait pu choisir cette sainte québécoise pour faire cette ascension, comme ça, vers le ciel. C'est vraiment extraordinaire quand on y pense. Elle avait passé sa vie à communier aux souffrances de Jésus. Elle lui était devenue conforme dans la mort. Elle s'était rendue digne d'avoir part à sa résurrection glorieuse. Et après le calvaire, elle atteignait sur le mont Tabor, où Jésus s'est manifesté dans sa divinité à trois apôtres. Le mont Tabor de Catherine Aurélie doit être celui de chacune de ses filles, et de tant d'âmes aussi aujourd'hui, des laïcs partout, à qui elle a appris, elle nous a appris, puis elle nous apprend toujours à concevoir, à activer cette soif de l'âme de Jésus, du sang de Jésus. Réponse à celle qui l'eut d'elle toute. Ce sont des âmes choisies, ces sœurs-là, particulièrement aimées, à qui elle épelle toujours pour leur faire vivre sincèrement et à fond ce mot qui a été toute sa vie, Sitio, j'ai soif. N'oublions jamais que Jésus, que Dieu, a soif de notre amour. Et que lorsque l'Esprit Saint s'empare de nous, nous sommes en mesure dans la un petit peu, parfois beaucoup, de répondre à l'amour de Dieu. Il y a de très beaux livres, je vous le rappelle, celui de Don Eugène Vandeur, paru en 1955, « Sitio, j'ai soif », les magnifiques livres de Don Gérard Mercier, publiés aux éditions Pauline, intitulés « Aurélie Caouette », et plusieurs brochures, « Aurélie Caouette » de Louise Marchand, et puis plusieurs autres petites brochures. Et aussi, peut-être, pour ceux qui ont des bibliothèques, le précieux sang ou le prix de notre salut par le père Faber, un ancien anglican, il a écrit ça en 1860 au moment de la fondation de cette congrégation admirable.